Antoine, Antoine Guillot, pour la revue de presse culturelle quotidienne de La Dispute. Oui, Antoine William, c'est ça.
Exactement. Bonsoir, bon. Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. Le Festival d'Avignon, a-t-on lu dans Le Monde, confronté au gel de 8% de la subvention de l'État, envisage de réduire de 2 jours son édition 2015 et de ne pas ouvrir la carrière de Boulbon, a indiqué son directeur général Paul Rondin. Le festival n'ayant plus les réserves suffisantes pour avancer les 8% gelés, l'État lui a demandé de présenter un budget amputé. Le gel représente 302 000 euros sur un montant total de 13,6 millions. Cette exigence tient compte de la situation fragile du festival qui a mangé ses réserves pour absorber la perte due au conflit des intermittents. L'édition 2014 s'est soldée, rappelons-le, par un déficit de 170 000 euros. Le festival avait été allongé de 2 jours pour couvrir 4 week-ends en juillet. Au ministère de la Culture, on assure chercher une solution au problème particulièrement aigu car la programmation doit être bouclée en février. Nous espérons tous, évidemment, un dégel des crédits avant fin février 2015, a indiqué Paul Rondin. Manuel Valls, rappelle Libération, avait pourtant annoncé le maintien des crédits du spectacle vivant pour les 3 ans à venir. Nous ne trouvons pas les mots devant des actes qui, d'un trait radical, réduisent au silence des lieux de partage et de pensée. C'est ainsi que s'est exprimé le 25 novembre la compagnie Maggie Marin à la fin de son spectacle pour qualifier la décision, non pas de l'État vis-à-vis du Festival d'Avignon, mais celle prise par le maire UMP du Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis, Thierry Ménien, rapporte Politis. Quelques jours plus tôt, celui-ci avait fait voter par son conseil municipal la fin de son conventionnement avec le Forum, rompant ainsi le partenariat qui liait la ville, le département, le ministère de la Culture et la région Île-de-France. Cette décision jette 20 salariés sur le carreau et surtout met fin à 14 années, pendant lesquelles cette équipe a joué un rôle exemplaire dans la création artistique contemporaine sous toutes ses formes et dans sa diffusion auprès d'un large public qui était très majoritairement composé d'habitants de la ville, comme le précise la Ligue des droits de l'homme de 93. Thierry Ménien critiquait la programmation élitiste du Forum, air connu de tous les démagogues, commande Politis. Au lieu de choisir la concertation avec l'équipe du théâtre et son directeur Xavier Croci, le maire a opté pour une voie plus brutale, celle qui mène à la dictature de la médiocrité. Une tendance analysée par Barbara Mété-Chastanier, maître de conférences en littérature française contemporaine et dramaturge, dans un rebond de Libération intitulé « Au nom du vrai public », entre guillemets, la censure de la culture. Depuis quelques mois, constate-t-elle, un même mot d'ordre se fait entendre. Les lieux d'art et de culture devraient être des lieux populaire et soucieux des goûts de chacun. Vague succès d'années démagogique du populaire des années 50, défendu par un Villard ou un Vitesse, le populaire semble aujourd'hui n'être qu'un vulgaire cache-sexe pour des politiques culturelles populistes qui n'hésitent pas à prendre les commandes de lieux artistiques quand leur programmation ne s'ajuste pas au cahier des charges municipaux. Celui qui est toujours instrumentalisé par le discours d'un populaire s'abritant derrière l'étendard de la démocratie, c'est le public, le vrai public, entendons-nous bien, celui qu'on dit empêché, celui qui, comme la vérité d'X-Files, est toujours ailleurs. Et c'est au nom de ce vrai public, au nom de ce vague fourre-tout qu'est devenu le peuple, que le populaire se voit réduit au rang de produit culturel consensuel. Le populaire et son peuple n'auront d'ailleurs jamais été autant mobilisés que depuis qu'on les aura vidés de leur substance en rangeant au placard la lutte des classes et les outils de l'analyse marxiste. Se diffuse ainsi, à gauche comme à droite, un discours anti-élitiste qui privilégie les formes les moins contraignantes, selon les mots de Karim Boumedjan, le chargé de la culture au Blanc-Mesnil, au détriment de l'exigence artistique. En temps de crise, l'art est prié de payer son tribut au social et à un vague commun qui n'existe que comme figure idéologique de la démocratie pour justifier de son utilité. Qu'il s'agisse du FN, de l'UMP ou du PS, poursuit Barbara Mettet-Chastanier dans sa tribune de Libération, la mode semble être aujourd'hui une ressucée molle du terme populaire, vague chewing-gum qui passe de bouche en bouche et semble se résumer à ce concept flou, le plus petit dénominateur commun et la seule chose à laquelle doit pouvoir se ramener une œuvre pour échapper au constat d'élitisme. On serait tenté d'en rire, jaune, si cette réappropriation populiste du populaire ne s'exprimait pas par une politique de censure, qu'elle soit institutionnelle ou plus simplement réactionnaire. Les cas de Brett Bailey, McCarthy, Rodrigo Garcia, Romeo Castellucci, Céline Sciamma ou Benjamin Parent sont là pour nous le rappeler. Populaire, entre guillemets, désigne pourtant tout autre chose que la somme de ses compromis. Il est le nom qui rappelle que l'expérience esthétique est le fruit d'un apprentissage, ce qui signifie que le public n'existe pas, mais qu'il est construit, attendu, espéré, voire méprisé par des œuvres qui dessinent pour lui la carte de ses possibilités, que chacun, quel qu'il soit, est en mesure de décider ce qui l'intéressera ou non, que la culture ne saurait se réduire à une vague collection d'objets disposés sur des étagères municipales pour justifier du devenir des ressources fiscales, mais qu'elle est d'abord une série de relations individuelles et collectives construites avec ceci, que l'art, enfin, n'est pas qu'un divertissement compensatoire et qu'il peut être une manière d'organiser le pessimisme et de distribuer dans le réel l'élan du nouveau, on ne saurait mieux dire.